Radio Campus.
Ah ah ah, laissez-moi rire.
Radio Campus.
Oh, bien.
Bah, vous savez que j'ai passé une nuit blanche à cause de...
Tu te sens seule le troisième mardi du mois, de 20h à 21h? Moi aussi. Alors rejoins-moi pour faire des LGBTs sur Radio Campus Angers. Culture queer, anecdotes, philo, art. La soirée s'annonce haute en couleurs sur LGBTs.
Bonsoir, bienvenue à tous sur LGBTs, les 20h, et on se retrouve pour une heure de commérage intensif et artistique. Alors aujourd'hui, on va parler de Salope à moustache, le mémoire fraîchement fini par Samantha en 5e année aux Beaux-Arts, et on va aussi parler des artistes qui l'inspirent. On va discuter aujourd'hui. Nouille aussi, bonjour Nouille.
Coucou.
Nouille nous propose un super horoscope et une review de série, et voilà, c'est parti.
C'est parti.
Alors déjà, avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais beaucoup remercier Emma et Kyrian pour ce jingle juste iconique en fait. Donc ils font de la musique, allez écouter leur groupe qui s'appelle Rature Future. J'ai complètement oublié d'en parler la semaine passée. Un grand merci à Emma et Kyrian, on peut les applaudir.
Bravo.
Ouais.
Ils sont super.
Et du coup, aussi on s'est rendu compte du coup suite à l'émission de la dernière fois avec Nouille qu'on pouvait faire un bingo sur quand Nouille dit et moi que je dis voilà. Donc voilà, si ça vous intéresse.
À chaque fois, vous prenez un shot.
Voilà, c'est la règle maintenant. Et du coup, aujourd'hui, on est là avec Samantha. Comment vas-tu?
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça va très bien, merci. Et vous?
Super.
Bah, super.
Ça va très bien. Ça va très très bien. Est-ce que tu veux bien inviter les auditeuristes à se mettre dans les conditions pour cette émission, pour l'écoute de notre émission d'aujourd'hui?
Ce que je peux faire, je peux... lire comme on avait convenu.
Bien sûr.
Alors, je vais vous lire un peu l'introduction de Salope à moustache pour un peu vous mettre dans une ambiance un peu charnelle et fantasque. Avant de débuter cette lecture, sachez que je vous propose, si ce n'est vous impose, une façon de lire ces écrits. Tenir cet objet entre vos mains en ayant la volonté de le lire ne doit pas s'apparenter à une simple lecture. Vous devez poser avec, performer avec, éblouir avec, séduire avec, ou bien utiliser cet objet pour soutenir un vase, comme l'ensemble des livres présents chez les Kardashians. Toute lecture aux toilettes est proscrite, je vous l'interdis formellement. Je refuse que mes pros soient associés à ce que vous effectuez dans vos latrines. Il en est hors de question. Salope à moustache n'a pas pour vocation de finir comme ce numéro d'octobre 2016 de Paris Match, relatant les détails du cambriolage de Kim Kardashian, West à l'époque. C'est-à-dire vieux, poussiéreux et surlu, n'ayant qu'un seul désir, être recyclé. Pour cette lecture, plusieurs options s'offrent à vous, elles ne sont pas exhaustives et je vous invite à m'en proposer de nouvelles. Drame et élégance sont de rigueur. Je vous recommande fortement de lire Salope à moustache l'après-midi ou en début de soirée. Il paraîtrait que cela stimule le collagène, d'après un récent post de Paris Hilton sur Instagram.
Alors, moi je vais vous proposer un petit horoscope créé par mes soins, tout à fait scientifiquement accurate, évidemment. Donc, je commence par les Capricornes. Vous êtes en roue libre.
Toujours.
Mais oui, mais en fait, je sais pas si vous savez, mais là, ça fait 20 ans que Pluton est en Capricorne. Mmh. Et en fait, il va bientôt passer en Verseau. Donc, bientôt, vous êtes plus en roue libre. Vous allez enfin pouvoir vous calmer.
Oui, enfin.
Et ça, ça fait plaisir. Ensuite, on a les Verseaux. Bah, du coup dur pour les Verseaux, parce que Pluton passe en Verseau. Donc, c'est pour votre gueule cette fois. Donc, bon courage. On leur souhaite un bon courage aux Verseaux. Les poissons, vous êtes dans votre bulle en ce moment et n'hésitez pas à y rester. Les béliers, vous êtes dans une relation toxique avec quelqu'un ou avec vous-même. À méditer. Les taureaux, vous n'avez pas de sourcils et si vous en avez, vous devriez les enlever. C'est tout. Les gémeaux, évitez les relations amoureuses, de toute façon, on vous évite. Kiss kiss. Les cancers, vous êtes des bêtes féroces. Les lions, vous êtes bêtes.
Non, non, mais...
Les lions, n'ayez pas peur du changement, il vous sera bénéfique. À méditer. Les vierges, ouvrez-vous aux autres et faites moins de méditation. Vraiment stop, le yoga, tout ça, arrêtez. Les balances, confrontez-vous à vos problèmes, sinon keep slaying. Évidemment. Scorpion, vous avez besoin de repos, gros dodo, allez, tout de suite, au dodo là, allez hop. Les sagittaires, il s'agirait d'arrêter de s'agiter.
Oh. Oh,
merci, j'étais très fière de celle-là.
T'as inspirée.
Ouais, j'étais grave inspirée. Et donc voilà, c'était la fin de mon horoscope hyper scientifique.
Merci.
Merci.
Alors, on va pouvoir maintenant se concentrer sur Salope à moustache. Donc, Samantha, dis-moi, de quoi parle ce texte?
Il parle de plein de choses. C'est une sorte d'énorme pot-pourri, un peu de fantasmes ou d'objets qui me fascinent et qui me traversent et qui m'ont traversé. Et c'est une sorte de journal intime un peu de ma vie liée à des objets culturels marquants, comme par exemple Barbie, Kim Kardashian, Madonna ou encore Candy, des zinzins de l'espace.
Candy, je tiens à dire quand même que tu t'es déguisée en Candy l'autre jour.
Oui, je lui ai rendu un fémage et c'était plutôt réussi.
Vraiment.
Et tu parles aussi beaucoup de Kim Kardashian. Non, j'avais vu dans l'intro que tu nous as lu, ça fait deux fois référence à Kim K.
Oui, mais en fait, j'y fais référence, mais au final, je ne l'ai pas tant abordé parce que je me suis rendu compte que c'était un sujet très, très, très dense et... Je pense que ce serait très intéressant de faire une thèse sur Kim Kardashian. Enfin, sur pas mal de choses. Et au final, j'y associe plus des souvenirs liés à sa figure que vraiment analyser sa personne.
Parce que, si je dis pas de bêtises, t'as commencé le projet en justement voulant écrire ton mémoire sur Kim Kardashian. Puis ensuite, t'es passé sur plus les prothèses ongulaires. Ça a eu quand même un grand chemin qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le cheminement que t'as fait? Comment t'en es arrivé à ce petit objet
cet objet rose? Oui, alors en fait, c'est l'inverse. J'ai d'abord eu un intérêt pour tout ce qui était la beauté prosthétique et plus particulièrement les ongles. Donc... Les prothèses ongulaires, le nail art et tout le côté subversif que ça pouvait avoir. Et après, je trouvais que le sujet était trop... Enfin, j'avais trouvé une problématique qui était très... un peu académique et ça m'ennuyait. Enfin, ça m'exaltait pas dans l'écriture ou dans mes lectures. Et après, je sais plus, je pense que c'était avec Mike que j'ai dû en discuter ou... En fait, Kim Kardashian, elle était partout. J'en parlais vraiment comme si c'était une amie. Et je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas faire sur Kim Kardashian. Mais comme je l'ai dit à l'instant, c'était trop dense. Et après, quand je suis re-rentrée... Enfin, quand j'ai intégré ma cinquième année, j'avais un rattrapage à faire. Et Tamarind, qui est ma directrice de mémoire, m'avait demandé de faire une sorte d'écrit sur le film Barbie que j'avais vu, qui me fascinait. Mm. Donc, j'ai énormément écrit, j'ai dû écrire 5 pages et au final c'est la moustache est venue de plein d'écrits d'à côté, de souvenirs, de sensations liées à comme je l'ai dit, à des choses qui me traversent ou à des fascinations, des choses qui me subjuguent.
Et en parlant de Tamarine, du coup dans ton mémoire tu racontes qu'elle a rencontré Kim Kardashian.
Mais non.
Mais si, je te jure.
Si, pardon. Si. En fait, mais normalement, cette info, elle a pas le droit de circuler.
C'est
mais
un secret.
Comme on est en France, on est à Angers.
Ah, mais tu m'avais teasé. Je m'avais dit qu'il y avait un secret dans ton mémoire et qu'il fallait que je le lise pour savoir. Et du coup, c'est ça.
Oui, tout à fait. En fait, incroyable. Je savais même pas. Enfin, on discutait ensemble de mon rattrapage et je lui explique que j'avais l'envie d'écrire sur Kim Kardashian. Et en fait, elle est californienne et elle travaillait à Los Angeles et elle travaillait pour un fleuriste.
Oui, parce qu'on parle de notre prof. Hein,
oui.
Une chose.
Et en fait, ce fleuriste a fait les décorations pour les fêtes de fin d'année chez les Kardashian. Et du coup, elle a vu Kanye, Chris et Kim boire un cocktail.
Je rappelle que c'est notre prof d'anglais, quoi.
Oui, enfin, qui est enseignante, oui, à Talm, Angers.
Elle est trop drôle.
C'est vraiment exceptionnel comme truc. Alors, comme on est des personnes extrêmement bien organisées, je propose qu'on tire au sort des petits papiers pour que je te pose des petites questions sur ton mémoire. Mais veux-tu choisir un papier?
Vas-y. Attention, attention, le papier.
Ah, grosse question.
Ah oui, elle est longue, celle-là.
Alors, comme on a discuté pendant des heures de ce mémoire, est-ce que tu peux me parler de ton point de vue sur l'expérience trans comme quelque chose de fluide, de l'ordre de la performance et de la mode?
Ouh,
grosse question.
Ah ouais, pétard.
Je vais essayer de m'en dépatouiller. De l'expérience trans, c'est plus de l'ordre de la performance.
Parce que du coup, dans ton mémoire, tu parles beaucoup de la féminité, de comment aussi, à un moment, tu parles du fait que par rapport à certaines personnes, tu as la capacité de te rendre compte que le genre est une performance, que tu joues de ces codes et que, en fait, tu t'en amuses, que la plupart des gens ne s'en amusent pas et qu'ils n'ont même pas la capacité de le faire. Et sur cet aspect-là, qu'as-tu à nous dire?
Comment dire?
Comment est-ce que tu traites l'identité de genre, on va dire, la manière dont tu t'habilles tous les jours, par exemple?
Déjà, genre, ça.
Ouais.
En fait, je me pose plus trop la question, mais je sais. Mais en fait, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est souvent des personnes cis qui me re-questionnent par rapport à ça. Mais je me suis rendu compte que globalement, enfin, je sais que je cite Virginie Despentes, que tout le long de ma vie, moi, je me suis jamais trop confrontée au questionnement de passing parce que j'ai globalement eu des cercles safe et j'ai fait mon lycée, j'étais dans une option artistique et pareil pour mes études et globalement, ma famille, ça se passait plutôt bien. Et je suis plutôt privilégiée là-dessus. Et du coup, j'explorais vraiment le passing femme, donc avec tous les apparats efféminés, donc les talons, les jupes, le maquillage, etc. Et oula, je me perds.
Et du coup, c'était au lycée que t'as commencé à explorer les vêtements connotés femme?
Un peu déjà au collège. Bah déjà quand j'étais petite, je piquais par exemple des fois les vêtements de ma voisine et ma mère m'avait interdit non pas les vêtements, les déguisements oui, mais pas les vêtements.
Ah oui.
Oui, parce que je pense qu'il y avait le spectacle et tout ce qui est l'après-midi amusement, tu as le droit, mais tout ce qui est vraiment de l'ordre de l'identité et du quotidien, non.
Ouais.
Et je sais que je m'en suis rendu compte très, enfin. Du coup, c'est aussi en écrivant Salope à moustache que je m'en suis rendu compte. Mais globalement, je me posais pas la question, enfin, j'avais pas le droit de m'habiller en femme quand j'étais petite. Et c'est au collège où j'ai commencé à m'acheter un sac à main, puis après des talons, etc. Mais ça reste, enfin, on est dans une société extrêmement binaire, mais ça reste en fait juste des vêtements, enfin, c'est juste de la para, donc ça veut pas forcément dire qui on est.
Ouais, c'est vrai que ce truc-là, de faire la différence entre déguisement et puis vêtements de tous les jours, j'ai l'impression que c'est une expérience assez commune pour plein de gens. À un moment, je m'étais travestie en garçon plusieurs fois chez moi quand j'étais au collège. J'expérimentais un peu avec l'identité de genre, etc. Et je sais que ma mère, bon, m'avait vu faire, elle était en mode, bon, ça va, tranquille, tant que c'est à la maison. Et une fois, j'étais sortie comme ça. Je sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais deux semaines plus tard, elle est venue me voir en mode, tu veux devenir un garçon? J'étais en mode, non, maman. Non, c'est pas ça.
C'est très mignon.
Oui.
Mais alors, Sam aussi, dans ton mémoire, Samantha, tu nous racontes que tu as été au concert de Madonna. cette anecdote absolument incroyable.
Oui, mais même toute l'aventure de ce concert, parce qu'en fait, j'avais eu l'envie d'aller à son concert il y a vraiment de nombreux mois, et en fait, j'ai vu qu'il ne restait plus qu'une place à 1000 euros dans un coin, et j'étais en mode, j'aime bien Madonna, mais quand même...
C'est cher que ça, balles, les concerts de Madonna ?
Là, en l'occurrence, il restait une place à 1000 balles dans un coin, vraiment aux confins du plafond des derniers sièges. Et je ne sais plus, j'ai fait la fête à Paris avec une amie, et j'ai rencontré un mec en after, et en discutant, il m'explique que lui, il va au concert de Madonna. Et j'étais, ah oui, c'est vrai, il y a encore le... Enfin, il y a ce concert-là. Et en fait, j'ai vu qu'il restait des places. Et du coup, j'en ai acheté une et je suis allée à ce concert avec ce garçon-là. Et c'était un peu une nuit plutôt incroyable parce que c'était pour moi, c'était une sorte d'énorme messe avec tous les gays. Je spiritualise un peu ce moment. Le garçon avec qui j'étais, j'avais très envie de l'embrasser parce que je me suis dit que ce serait une sorte d'énorme consécration, un baiser de gay. Je ne sais pas si on peut dire le mot. Vraiment, j'avais cette envie. Au final, j'étais avec mon ami, lui, il était avec un autre ami. Après, on allait boire un verre. Et au final, moi, je suis rentrée avec Chloé. Et on s'est quand même envoyé un message en mode « Ah, ça aurait été chouette de continuer à se voir. » Et au final, on a fini la nuit ensemble. Et après, je devais rentrer à Angers à 8h. Et c'était vraiment une nuit d'extase dans tous les sens du terme.
Il y a vraiment un côté sacré, comment tu le racontes. C'est trop drôle. Genre une nuit d'extase, la messe des PD, j'adore.
Oui, la Sainte Madone.
Vraiment Madonna, la Vierge Marie. Genre.
Mais vraiment.
C'était incroyable. Vraiment, pendant une semaine, je planais. Quoi. C'était génial.
Et dans son show aussi, il y avait beaucoup d'invités. Tu m'en avais un peu parlé. Avec du voguing aussi en danse. T'as été à la tournée de Beyoncé en ce moment avec aussi du voguing qui était.
De la scène ball.
Scène ball. Et t'en as fait pas mal des concerts sympas.
Oui, cette année c'était plutôt riche. Je pense qu'après la Covid aussi, j'avais aussi l'envie de vivre des moments. Avec des figures qui nous inspirent et aussi qui sont pour notre communauté, notre culture.
Carrément. Et alors aussi, petit papier. Petit papier.
C'est le retour des papiers.
C'est le retour des papiers. Tu parles beaucoup dans ton texte de Kevin Dido.
Tu parles beaucoup, point.
Voilà, on s'arrête là. Tu parles beaucoup de Kevin Bido. Il m'intrigue énormément. Tu m'en as pas mal parlé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui est ce sacré personnage?
Alors, il est très intriguant. Kevin Bido, c'est un théoricien. Il a fait une thèse sur le rose. Il a fait aussi de nombreux essais sur les modifications corporelles, donc les piercings, les cornes, les tatouages, etc. Et c'est un peu... il représente vraiment il a une sorte d'étendard un peu de la communauté queer dans des sujets... dans des lieux d'institutions où c'est des sujets qui sont pas trop explorés. Et ça fait de nombreuses années que je suis son travail sur Instagram ou que je lis ses articles, etc. Et c'était aussi en septembre où, en fait, je l'ai croisé par hasard.
C'est fou.
Comme ça, et je suis allée le voir vraiment comme une fangirl, ne sachant pas vraiment quoi dire. Et en plus, Géraldine, une de nos professeurs, m'avait dit de lui écrire pour qu'il me conseille par rapport à mon sujet de mémoire. Et au final, on a brièvement papoté et on s'est retrouvés, je crois, 2 ou 3 semaines après. Pour boire un café à Beaubourg, et il me parlait de sa pratique et je lui parlais aussi de mon mémoire. Et du coup, il a écrit une thèse sur le rose et qui est ultra intéressante parce que ça explore vraiment le marketing, le rose dans le marketing, dans le consumérisme, au niveau du genre. Et en fait, je me suis vraiment intimement retrouvée dans plein de textes qu'il écrivait et c'était. Enfin, le rencontrer, c'était juste incroyable. Et c'est vraiment une très belle personne. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait.
Et quand tu parles justement de, tu t'es retrouvée intimement dans ses écrits, c'est quoi justement ce rapport aux roses aussi t'as un rapport aux roses qui est très particulier là, t'habilles en bleu en ce moment, t'as ta période un peu bleue, je crois.
Une petite semaine de déprime peut-être.
Ah, ça joue.
C'est le blues.
Faut faire des machines. Oh.
Mais généralement, t'es habillée en rose en fait de la tête aux pieds.
Tout le temps.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On te voit à 10 km quoi. Toujours tout en rose. Et du coup, c'est quoi ce rapport aux roses justement auquel tu t'identifies intimement, comme tu dis
Mais je pense que j'ai un rapport très presque charnel. Enfin, c'est une couleur qui m'exalte. Enfin, je la trouve juste trop belle. Enfin, il y a un objet, s'il existe en rose, il sera forcément plus beau, plus amusant, plus frivole. Enfin, c'est. Mais après, je me demande si c'est à cause de ce que la société contemporaine a fait de cette couleur ou si c'est juste pour l'affect visuel. Enfin, on ne saura jamais. Mais non, je pense que c'est aussi une sorte de boulimie liée à des frustrations d'enfance. Où, enfin, je ne voulais pas trop l'admettre, mais je pense que je me venge de ne pas avoir eu assez de roses comme toutes les petites filles ont. Enfin, la plupart des petites filles ont lorsqu'elles sont petites, dans les jouets, dans la décoration.
Ça, je comprends. Hein.
T'as eu beaucoup de roses
Justement, on a essayé de m'en faire bouffer un peu trop. Et du coup, j'ai un peu eu l'inverse, où j'étais fâchée avec pas que le rose, mais tout ce qui était féminin en général. Par exemple, les Barbies, je les mettais dans le micro-ondes, je les démembrais, enfin... un enfant vraiment et en fait c'est après m'être mis en accord avec mon identité de genre que j'ai pu me réapproprier cette féminité que j'avais rejetée parce que je sentais qu'elle me l'était imposée et en fait le fait de faire le choix de choisir de quelle manière j'exprime ma féminité ça m'a permis de qui fait deux fois plus, c'est de l'être encore plus qu'avant, en fait. Mmh. Où j'ai des périodes, si on parle de vêtements, par exemple, où ça peut être super mimi, super femme ou super masque, mais ça arrive plus souvent. Genre, j'aurais jamais mis de talons avant, quoi. Et ouais, c'est trop cool, ça, de pouvoir se réapproprier ces choses-là. Mmh. Du coup, c'est un peu des histoires inversées. Les nôtres.
J'aime bien. Enfin, ouais. Je trouve ça chouette aussi d'apprendre comme tu dis, des histoires inversées, des opposées.
Mais j'ai trouvé ça super touchant en lisant ton mémoire, justement, parce que on a un parcours clairement opposé en soi. Et je me suis beaucoup reconnue dans ce que tu disais, sur plein de références aussi. Tu parles de Pierre et Gilles, tu parles de Despentes, de beaucoup d'auteurs, autrices, artistes qui, je pense aussi, dans la communauté, ont une très grande place. Et c'est super intéressant de voir comment tous les gens, en fait, peuvent être touchés par ces mêmes références.
C'est vrai.
Voilà. Alors, en parlant de références, tiens, tu parles aussi de Valérie Solanas. Et dans tes remerciements qui sont juste à mourir de rire, où tu appuies bien sur le fait que tu as du Botox et que tu remercies tout le monde... façon Julia Roberts dans Lancôme, je crois.
Non, les deux sont un peu mélangés. Non, j'ai fait une... Enfin, mes remerciements, c'est un peu un simulacre d'une scène comme aux Oscars ou...
Ah, ok.
Mais c'est une récompense pour des prix de scènes pornographiques queer, la meilleure fellation, voilà. Enfin, et en fait, je ne peux pas... On voit pas la tristesse sur mon visage parce que j'ai trop de Botox. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très... un peu trash, même. Et oui, je cite Valérie Solanas parce que dans son livre, je sais plus...
C'est avec les remerciements dans Up Your Ass, sa comédie... sa comédie, n'importe quoi. Dans sa pièce de théâtre. Oui.
Où en fait, je dis un peu avec ironie... Enfin, je cite Valérie qui, dans sa pièce de théâtre, se remercie uniquement elle pour les relectures, elle pour l'esprit critique, elle pour tout un tas de choses. Et je trouve que c'était, Enfin, c'est extrêmement gonflé et c'est très drôle de faire ça. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai cité. Et c'est d'ailleurs une pièce de théâtre très, très misandre et très incroyable, très jouissive à lire. Jouissive.
Bah d'ailleurs, j'en profite un peu pour étaler ma science, parce que j'ai eu une petite obsession sur Valérie Solanas pendant un moment. Et du coup, elle a écrit le Scum Manifesto, son œuvre un peu la plus connue.
Ah, c'est elle.
C'est elle, Valérie Solanas. Et le Scum Manifesto, c'est vraiment un pamphlet hyper misandre, où juste elle dit, juste les hommes sont des incapables, et elle est vraiment hyper radicale, hyper violente. Ça a été tellement violent qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est une parodie. Et elle dit non, c'est hyper premier degré. Elle dit brûler les hommes. Enfin, c'est vraiment... la meuf est à fond dans son truc, quoi. Et je tiens quand même à préciser que dans ce manifesto, elle a des positions très transphobes. Donc, il y a des choses qui sont à prendre avec des pincettes. Mais il y a une histoire que je trouve absolument folle de Valérie Solanas. C'est que... Je sais pas si vous aviez vu ça... Mais en gros, elle a tiré sur Andy Warhol.
Pardon ?
Andy Warhol. Et l'histoire derrière tout ça, elle est juste complètement lunaire. C'est qu'en fait, elle lui a déposé son script pour une pièce de théâtre qui se serait appelée, je sais plus comment, pour sa pièce de théâtre, qui avait pas de nom, on va dire. Et en gros, Andy Warhol l'a perdue. Et pour se venger, en fait, elle lui a tiré dessus. Et donc, il n'en est pas mort, il a juste flippé jusqu'à la fin de sa vie pour sa vie et son travail.
Parce qu'il avait perdu sa pièce de théâtre, elle lui a tiré dessus.
Oui, et en gros...
Ah oui, elle mentait pas.
Moi, j'avais lu que c'était parce qu'apparemment, il la cachait. Enfin, mais je crois que l'histoire, elle est un peu floue.
L'histoire est un peu floue dans le sens où, apparemment, Andy Warhol, rien que ses films, ils étaient beaucoup censurés et que le script que Valérie Solanas avait écrit était tellement obscène qu'il a dit, mais meuf, il n'y a pas moyen, je fais ça, c'est impossible ce que tu me racontes. Et en fait, la pièce de théâtre raconte l'histoire d'une meuf qui en a tellement marre des hommes qu'elle finit par en tuer un. Et en fait, c'est exactement ce qu'elle a voulu reproduire. Et en fait, après ça, Andy Warhol, il n'a même pas cherché à lui faire de procès, parce que le mec était juste en mode,
fair enough.
Ouais, il a dû se dire, bon,
je capte ma soeur, pas de soucis.
Il y a un truc qui s'est passé, l'inversion s'est inversée, il s'est passé quelque chose.
Oh, waouh.
Ouais, je trouve cette anecdote très, très drôle quand même.
Ah oui, histoire de zinzin.
Ouais, franchement, pauvre Valérie.
Pauvre Andy aussi, genre il a pris cher. Hein.
Je crois qu'il est pas tout blanc dans l'histoire.
Ouais, non, mais j'ai cru comprendre que c'est pas un personnage de fou furieux non plus.
Voilà quoi.
Ouais.
Ça en dit long.
Ah!
Ce sera ma seule blague.
Bravo.
Merci.
Et donc, ce qui nous reste, petite question encore.
Dernier papier.
Les deux petits derniers papiers. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la tapette?
La tapette. Je frise, c'est horrible. Alors,
l'histoire de la tapette.
La tapette. Attends, c'est. Tu te souviens un peu de...
Par rapport au nom, la traduction...
Ah oui, pardon. Désolée, excusez-moi. Oui, en fait, c'était cet été. J'étais en stage chez une amie tisserande, Justine. Et elle a un ami qui est d'origine portugaise. Et mon grand-père est d'origine portugaise aussi. En fait, en discutant, je ne sais plus comment mon nom est arrivé dans la discussion. Et en fait, j'ai appris que mon nom de famille, qui est d'origine portugaise, ça voulait dire tapette.
C'est incroyable.
En portugais, oui. Et j'étais extrêmement ravie de cette information. Je ne sais pas si littéralement c'est vraiment ça, mais je pense que dans le sens, ça veut dire tapette.
Mmh.
Et vraiment, j'ai eu plein d'informations très récemment sur plein de choses qui revenaient à moi.
C'est un signe. Hein.
Mais oui.
C'est le ciel qui parle pour toi.
Parce que moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps que le village de Bretagne dont ma famille venait, ça s'appelait la queue en l'air.
En breton.
En breton.
Queue en l'air, c'est quoi le nom du village?
J'ai oublié, j'essaie de retrouver et tout, mais bon, je demandais à mon père, mais c'est lui qui m'a appris ça il y a vraiment genre 2 semaines et j'étais là. Oh, magnifique.
Magnifique, la queue en l'air, c'est sublime.
Ouais.
Voilà. Et raconte-nous l'histoire si croustillante du vigile sexy.
Oh. Oh mon dieu, mais là, ça... Ouh. Oh. C'est, normalement, ça ne doit pas sortir.
Ah bon?
Ah non, mais je, normalement, je n'avais même pas le droit d'écrire. Enfin, non, mais c'est juste que j'ai travaillé pendant plusieurs années dans un supermarché, que je ne citerai pas pour l'anonymat des personnes. Et d'ailleurs, à cette période-là, j'étais avec mon ex. Et il y a un des vigiles, le chef des vigiles, je ne sais pas, j'ai dû lui taper dans l'œil. En fait, on a un peu commencé à se fricoter. C'est un peu 50 nuances degrés, mais dans un supermarché en province de France, quoi. Mais, et on s'est... Ouais, on s'est... Enfin, ça a un peu tourné autour pendant très, 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 très longtemps, parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes horaires, etc. Et on a exploré le magasin de plein de manières. Mais c'était pas forcément... Enfin, avec du recul, c'est fun, mais c'était un peu triste dans le sens où il n'était pas du tout safe et il n'y avait pas du tout de consentement. Et dans les rapports de... Enfin, c'était vraiment l'homme viril dominant. Et moi, j'étais vraiment dans une sorte de dynamique, comment dire. C'était un peu une figure où je voulais être acceptée, désirée. Du coup, il y avait pas mal de choses que je laissais faire. Et du coup, c'était pas très fun sur ce point de vue-là. Mais c'était quand même, une anecdote très croustillante. Mais c'est plus par rapport au... Comment dire ? Ouais, c'était quand même... un peu oppressant lorsqu'on te voyait des fois, quoi.
Mais souvent avec ce genre de figure aussi, c'est qu'il y a la notion beaucoup fantasmée et croustillante de ce qui se passe, et derrière les réalités sont souvent pas si super que ça, qui sont pas beaucoup abordées aussi en discussion.
Oui, globalement il y avait pas de discussion, mais ce qui... Attends, c'est un trou.
Ah, les trous de mémoire, ça...
Ah oui, c'est qu'en fait, ce que j'explore plus dans Salope à moustache vis-à-vis de cette relation, c'est le fait qu'il projette vraiment, comme je suis une personne femme et au passing femme, il y avait beaucoup une projection... du coup, une projection très hétéronormée, donc c'est-à-dire de soumission, du coup, pas de consentement, etc. Enfin, et du coup, il avait vraiment une figure de pouvoir, et professionnellement, et même dans sa carrure, et même socialement, enfin...
Tous les aspects, en fait.
Ouais, tous les aspects. Et donc, ça m'a beaucoup enragée, parce que j'ai pas pour habitude d'être en dessous d'une personne dans les relations de tout ordre.
Ah, bien sûr.
Et je sais que ça me... Enfin, à la fin, quand j'ai mis fin à ça, parce qu'il y avait aussi des demandes physiques par rapport à mon apparence venant de sa part, alors qu'en fait...
Qui es-tu ?
Qui es-tu, sachant que je peux briser sa vie en claquant des doigts, quoi. Parce que c'est quand même une personne qui est mariée, qui a un haut poste dans un magasin, etc. Et je sais... Enfin... C'était très enrageant à la fin. Mais bon, c'est fini.
Mais tant mieux.
Oui.
Ah ouais, franchement, tant mieux. Hein. Ouais, gros bolos.
Ouais.
Ouais, c'est bon, là.
C'est bon, là.
Je suis pas saoulée.
Bon, on peut passer sur une petite pause musicale. On va écouter du Madonna. Le titre choisi par Samantha. Si tu peux répéter le titre. Girls
who... What it feels like for a girl.
Ouais, exactement. Donc, What it feels like for a girl de Madonna.
Ah, mais c'est marqué.
Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading. But secretly, you'd love to know what it's like, wouldn't you? Thank you.
Et nous voilà de retour pour continuer à parler donc de Salope à moustache. Alors Samantha, dis-nous, d'où vient l'idée en fait de ce titre?
Il faut sachez que ça a été très très compliqué de trouver un titre pour ce mémoire. Enfin, j'en avais vraiment listé plein. Les confidences d'un homosexuel sur un sofa en satin rose. Enfin, il y en avait plein, etc. Et en fait, c'est pas venu de moi. C'est venu d'un des mecs qui m'a cassé la gueule parce qu'en fait, il n'appréciait pas qui j'étais. Et du coup, en tant qu'homme blanc, cis, valide, la rue est à lui et il s'est dit « Tiens, ça me déplaît, je vais corriger cette personne. » Et du coup, pour recontextualiser, c'était un soir dans la Doutre. J'étais avec des amis et il y a un groupe de mecs, des fachos, qui ont commencé à me faire chier et à m'insulter. Du coup, je suis allée les voir. Ça...
T'as bien fait.
Ça allait... enfin, parce que j'avais vraiment passé une année un peu insupportable et je m'étais dit, j'en ai un peu marre de laisser couler. Du coup, je suis allée les voir. Et ça s'est pas très bien passé, mais ça n'a pas été violent quand je suis allée... Enfin, pas si violent que ça, quand je suis allée les voir. Et après, on a décidé de partir avec Maï et Lola. Et là, ils ont commencé à nous suivre et à vouloir me frapper. Au final, moi, j'ai essayé de courir. J'étais en corset. Quelle bonne idée.
Oh, mon Dieu.
Heureusement, j'avais enlevé mes énormes créoles. Mais du coup, mon corset est cassé. Et ils m'ont rattrapé, ils m'ont cassé la gueule. Et en fait, ils m'ont insulté à ce moment-là de salope à moustache. Et du coup, au final, j'aime bien. J'aime beaucoup cette expression, ce mot. Et ça s'inscrit aussi dans toute la dynamique des personnes qui subissent des stigmates de se réapproprier les insultes, comme les PD, les communautés afro-américaines avec le N-word. Et de faire d'un stigmate une force. Et je trouvais ça beau et fort de le mettre ici dans une sorte de journal intime qui s'inscrit aussi dans un contexte de diplôme, qui s'inscrit aussi dans l'institution. Enfin, il y a plein de symboles que j'y vois que je trouve forts.
C'est hyper beau que tu utilises ce moment-là absolument affreux pour justement te le réapproprier et que c'est quand même un super titre, Salope à moustache.
C'est pas mal, oui.
C'est très beau.
Je savais pas du tout que ça venait de là, du coup.
Si.
Mais oui, d'ailleurs, pour l'anecdote, Sam, elle a fait une faute de frappe sur la première édition.
Ça a osé.
Et en fait,
il y avait
marqué Salope à moustache. Il n'y avait pas le S. Bon.
Maintenant, il y a le S.
Oui, okay. J'ai refait des éditions, il y a le S, oui.
Ah, bon, tant mieux alors. Et du coup, aussi, le moment où tu en parles dans le mémoire, tu parles aussi du moment du procès. On a eu beaucoup de très longues discussions aussi autour de l'autorité de l'État, de la justice, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans ces choses-là. Et les scènes du procès sont complètement lunaires, en fait. On voit aussi
Ouais, par rapport à... En fait, il y a eu deux agressions. Enfin, il y a deux personnes qui m'ont violenté, Com et Armel. Et il y a que Armel qui a été pris sur le moment. Là, il y a des procédures qui sont lancées contre Com. Et en fait, lors du procès, qui s'est quand même fait assez rapidement parce que la police judiciaire a vraiment forcé pour que ça se passe très rapidement. Donc là, pour le coup, j'ai eu de la chance. Et en fait, il a commencé en expliquant qu'il allait devenir père. Et moi, je sais que ça m'a mis dans une rage folle parce que c'était déjà, comment dire, c'était un peu perçu... c'était un peu une carte atout pour lui alors que... Enfin, moi, il y a plein de questions qui me sont venues en tête. C'est-à-dire, le mec, à aucun moment, il s'est dit « Ah bah tiens, ce serait peut-être mieux de pas devenir père à 19 ans. il a pas de logement pour lui. Il a pas d'emploi. Il est étudiant. Enfin, il est dans une situation vraiment complexe. Mais n'ayez pas de pitié pour lui. Ses parents sont diplomates. Donc,
non, pas de pitié pour lui, surtout pas.
Et en fait, personne s'est dit, vu ce que t'as fait, c'est pas normal d'engranger, d'enfanter, de faire de procréer, etc.
Quel genre de père ça pourrait être, quoi.
Genre, bah, oui. Reproduis pas, s'il te plaît, frérot.
Enfin, personne s'est dit,
garde-le pour toi.
C'est problématique qu'un agresseur fasse ça, quoi. Et du coup, oui, même pendant le procès, je sais qu'il a commencé à utiliser un vocabulaire de victime le concernant lui. C'est-à-dire qu'à un moment, on a eu une altercation et je ne me souvenais plus, mais je l'ai frappé. Donc, je suis très fière de moi. Ah, merci aux caméras de surveillance de la ville d'Angers, MDR. Et en fait, oui, il s'est senti humilié parce que je l'ai frappé. Donc en fait, moi, je me fais insulter devant toute une rue par un groupe de 5 mecs, donc des insultes homophobes et transphobes, et j'en passe. Et c'est lui qui s'est senti humilié. Enfin, j'ai trouvé ça... Enfin, dans plein d'interstices du procès, donc dans des façons de parler, des façons d'agir, enfin, tout est tourné autour de l'hétérocratie, enfin, par rapport au fait que lui procrée, je sais pas pourquoi j'utilise ce mot, mais même qu'il utilise le fait que ce soit lui qui se sente en victime, enfin, non.
D'où ?
Oui, c'est pas toi qui es traumatisé, enfin, il y avait pas mal de micro-choses comme ça qui m'ont énervé symboliquement, et que personne ne voit, que ma mère était aussi présente, je pense qu'elle a pas vu ça, enfin...
C'est juste tellement récurrent et aussi normalisé que quand t'es visé par quand t'es queer et que t'es visé par des choses pareilles, on se pose même pas la question de savoir si c'est traumatisant ou pas. C'est juste, les gens partent du principe que c'est normal. Et c'est ça qui est hyper frustrant souvent, je pense.
Et je tiens juste à dire que Mike était je l'embrasse, qui était qui était présente et pendant mon agression, et qui m'a défendue, et qui a aussi été interrogée par les policiers. On lui a demandé si je les avais dragués. Quand bien même, qu'est-ce que ça peut faire que je les ai dragués ? Enfin, ça justifie en rien. Enfin, je comprends pas cette question. Mais du coup, ça s'ajoute sur la pile de la complexité et de la claque aussi qu'on se prend par rapport à tout ça.
Bah, merci en tout cas d'en parler avec nous, parce que c'est des sujets importants dont il faut parler.
Merci beaucoup.
Voilà. Merci à vous.
Et bien, sur ce, je vais me permettre de vous conseiller quelques séries.
Oui.
Parce que voilà, je suis quelqu'un qui est avide de séries et je pense que mon expertise est la meilleure. Donc,
évidemment.
Voilà, je vais tout simplement commencer par Class of 07, qui est une série qui est sortie cette année, dont je t'ai sûrement déjà parlé parce que je parle de toutes les séries que je regarde de manière intense à tout le monde, qui m'a été conseillée par une amie. En fait, c'est une série australienne et ça fait plaisir parce que des séries australiennes, moi, j'en connais pas beaucoup, j'en ai pas regardé beaucoup. Et celle-là, elle est très très fun, très absurde. En fait, ça parle d'un groupe de meufs, et en fait, c'est leur promo, donc la promo de 2007, c'est pour ça que ça s'appelle Class of 07. Ah. Et en fait, elles se retrouvent pour faire leur réunion 10 ans plus tard de lycée. Et c'est un lycée uniquement de jeunes filles. En fait, tout le cast est entièrement féminin, donc déjà, ça c'est super. Ah. Et plot twist, quand elles se retrouvent pour... leur réunion de promo, c'est l'apocalypse.
Waouh.
Voilà, je vous laisse sur ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, en vrai, il y a d'autres, il y a des sujets qui sont abordés dans cette série qui sont super, dont le bullying et le grooming.
C'est quoi le grooming ?
Le grooming, c'est tout simplement de la pédophilie.
Ah, d'accord.
C'est se faire manipuler. Surtout quand ça arrive souvent aux jeunes filles, et donc là c'est des relations prof-élève, ça parle de ça, ça parle de bullying, donc le bullying c'est le harcèlement scolaire, mais c'est traité de manière très ponctuelle, et le ton de la série reste assez léger, même si ça se passe dans un contexte d'apocalypse, tu réussis quand même à rigoler, à un peu sourire tout le long, ce qui est une prouesse, je trouve.
C'est pas mal.
Ouais, et après, c'est vraiment, c'est juste a good time en général. Et je conseille vraiment très fort cette série. La deuxième que je voulais vous conseiller, c'est Chewing Gum. C'est une sitcom de 2015 britannique qui a seulement 2 saisons. Les épisodes sont assez courts, donc ça dure 20 minutes, voilà. Et en fait, ça suit la vie d'une jeune femme de 24 ans qui s'appelle Tracy, donc c'est une femme noire, qui a été élevée dans un contexte de vie très religieux. Sa mère, elle est méga religieuse, méga chrétienne, vraiment... elle est à fond, elle distribue des tracts dans la rue, elle est en mode pas de sexe avant le mariage et tout. Problème, c'est que Tracy, elle a chaud au cul. Tracy, elle veut grave du pain. Et en fait, la moitié de la série, c'est elle qui essaye de se faire soulever. Sauf qu'elle est vraiment socialement inadaptée dans plein de contextes et elle se retrouve dans des situations, mais ça crée des malaises, mais des fous rires. C'est très très absurde, très humour anglais. Et ça se concentre vraiment sur la classe populaire anglaise. Et ça met en scène plein d'archétypes de personnes qui sont pas souvent représentées à la télé et c'est trop bien. Et surtout, c'est la première série que j'ai vue traiter la virginité de cette façon, où en fait c'est vraiment des gos qui veulent juste se faire démarrer et qui en ont rien à foutre. Et je trouve ça vraiment genre rare en fait, ce genre de représentation de la virginité. Enfin, surtout qu'elle passe vraiment de « Ah, la religion, nanana, ah, j'ai chaud. J'ai chaud, il faut y aller. » Et du coup, ouais, ça, c'est Chewing Gum. Et la dernière série dont je veux vous parler, je vais essayer de faire court parce qu'elle me tient à cœur, c'est Doctor Who.
Ah, ça fait des semaines.
Je sais, oui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la série britannique de science-fiction par excellence. Ça fait 60 ans que ça dure, donc elle a fêté ses 60 ans cette semaine, ou la semaine dernière, je ne sais plus. Et la raison pour laquelle cette série dure aussi longtemps, c'est parce que l'acteur se renouvelle à chaque fois. En fait, il y a eu différents acteurs qui jouent le personnage principal, qui est celui du docteur. Donc la série met en scène le personnage du docteur, qui est un alien qui voyage à travers l'espace et le temps, dans un contexte un peu kitsch. Vraiment, c'est kitschouille hein, comme série, on va pas se mentir. Il est tout le temps habillé un peu en costard, il ou elle d'ailleurs, parce qu'il a été joué par différents genres. Oui. Hein. Là, récemment, du coup, c'était une femme qui jouait le docteur. Et... c'est pour ça que je vous en parle. La nouvelle saison sort le 26 décembre et le nouvel acteur qui va jouer le docteur sera Ntuti Gatwa, qui est un acteur britannico-rwandais qui est connu pour son rôle d'Eric dans Sex Education.
Ah. Il est tellement beau.
Il est tellement beau.
Très, très charmant.
Très, très charmant. Et du coup, c'est le premier acteur noir à jouer le docteur. Et aussi le premier acteur ouvertement queer à jouer le docteur. Donc,
yay,
c'est vraiment une dinguerie. Et pour ceux qui ne connaissent pas la série, vous pouvez quand même regarder la nouvelle saison, puisqu'à chaque fois que ça change d'acteur, la série se renouvelle. Donc voilà, n'hésitez pas à aller check that out, parce que vraiment, ça vaut le coup. Check that out. Et voilà, c'est tout pour moi.
Et voilà, je pense qu'on arrive globalement à la fin de cette émission. Je pense qu'on peut se dire qu'on a passé un super moment.
C'était super.
Merci encore Samantha pour la salope à moustache.
Merci
pour
salope votre invitation. Moutache.
Oh, à moutache.
J'arrêterai jamais.
Et puis,
j'attends ton mémoire, Nouille.
Attends, déjà, il faut que je passe mon diplôme.
Et puis, on se retrouve... dans un mois. Gros bisous tout le monde.
Gros bisous.
Gros bisous. Bye bye.
Hey. Michael Sweet. My might go sour. Phrase of the moment is low it. You are the moon, what sets me howling. Love, I ain't seen you shine for months. Over in the corner listening to David Bowie. Mad old tempers bubble underneath cold showers. Door slam shut. Do I go seek or do I sit back? Let the meter run now. Tension's growing. Sat down stewing. Weary faces survey the ruins. Recently your lipsticks kissed more cigarette sticks than they've done my lips. How can this be? If you're not in view, what is there to see? Not much for me. We rise to a head, we boil to a froth, and I love you is holding hands where I'm not sure. I love you is holding hands where I'm not sure. And we are almost done, and we are almost there. Feels like we are almost done, we are almost there. Falling far from favor, bad behaviors, clashing flavors. Mad old passions start to taper till all that remains is the pattern and the vapors. What's the latest? Let's just spark until our flames are naked. Flames are naked. You see, we go out and we get mashed up. We go loud and the plates get smashed up. I know the way your face can laugh. So it hurts so much when I see you with that mask on. We go berserk, it's all just desserts. Moments of loving are mostly deferred. And moments of hurt are the ones we preserve. Is this what we want or just what we prefer? And what's love? Giving a stranger the power to hurt you and hoping they never. What comes after? Sat in the backyard, heart locked up. But I've got a latchkey when we're done with the bitch and bastard. What's at the end? But a smile at last, it's a smile at last. It's a smile at last, it's a smile at last. We are almost done. Fell in love.